Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un cultivateur d'un monde vivant oublié nous rejoint sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs?
Donc je m'appelle Alain Galouromaudière, je suis retraité d'une administration de l'éducation nationale, il faut bien manger parfois. Après des études scientifiques, biologie et géologie, je me suis orienté vers l'éducation et j'y ai pris ma part pendant 42 ans. Mais ce travail-là s'est poursuivi au sein de la communauté locale, c'est-à-dire la commune, en m'impliquant dès ma retraite, même avant ma retraite, en 2014, au sein de la commune comme élu. Élu à l'environnement, parce que c'était déjà ma passion. Puis ensuite adjoint à la biodiversité, à l'environnement, par une orientation voulue de notre équipe municipale. Et j'en ai terminé avec cette activité en mars dernier, et ce qui me laisse beaucoup de temps libre maintenant pour faire ma propre activité environnementale. Cultivateur, c'est un gros mot, je préfère le mot paysan parce que je suis petit-fils, arrière-petit-fils, petit-fils de paysan, et j'ai choisi une autre voie que la culture de la terre, mais je reste paysan. Du moins, je suis redevenu paysan à la retraite, et c'est un grand plaisir que d'être au contact des animaux, de la faune, de la flore locale. Mais mon métier n'était pas du tout lié à la paysannerie ou aux pratiques agricoles. Élevé à la campagne, élevé au lait de chèvre par une arrière-grand-mère qui, elle, n'avait pas de ferme, mais avait un troupeau, et on allait au champ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aller au champ? Ça veut dire prendre le troupeau et puis suivre les chemins, suivre les chaumes, suivre les haies pour nourrir les bêtes et les ramener le soir. Ce qui fait que de l'âge de 5-6 ans jusqu'à 10-12 ans, eh bien, j'ai passé tout mon temps, qui n'était pas scolaire, au contact de la nature. Et la nature, pour moi, c'est un gros mot, parce que c'est au quotidien privilégier le confort des bêtes, aller chercher de l'eau à la rivière ou au puits. C'était des choses très terre à terre. Par exemple, être élevé au lait de chèvre, ça veut dire que la crème du lait de la veille, on va vous le mettre sur une tartine, une grande tartine de pain de chien, de pain de 4 livres, et tous les jours, on est élevé avec cette tartine de crème. Donc voilà ce que c'est pour moi être paysan ou petit-fils ou arrière-petit-fils de paysan.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en 3 mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son.
En 3 mots, ça va être difficile, j'en mets 4. Je vais mettre l'air, l'eau, la terre, le sol et le vivant. Donc ces 4 mots font un tout et forment un tout et je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Dans le sens où si je n'ai pas de sol, eh bien, je n'ai pas de vivant, que ce soit qu'on parte des bactéries ou des champignons ou des plantes. Si je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de vivant non plus. Chaque être vivant est constitué de 80-90% d'eau et nous-mêmes aussi. Et si je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de végétaux, je n'ai pas de chlorophylle et donc je n'ai pas de matière organique et donc je n'ai pas de vivant non plus. Donc si je devais définir le vivant, ça serait ce qu'on appelait ou ce que les auteurs appellent la res communis, c'est-à-dire la chose commune. Quand je vois qu'on s'approprie l'eau, actuellement on a une grosse problématique ici dans la région avec des bassines. Quand je vois qu'on s'approprie l'air dans certaines situations de ville, moins ici mais dans certaines situations de ville, on s'approprie la terre aussi, qui devrait être le bien commun, et on s'approprie aussi du vivant, et ça me fait très mal. Donc moi, pour moi, c'est plutôt quatre mots. Alors on va commencer par le goût, je viens de parler du lait de chèvre. Alors cette acidité, douceur du lait de chèvre, c'est un goût qui reste en soi et que l'on conserve tout le temps. Une couleur, je vais hésiter entre deux couleurs, du jaune au vert, parce que aujourd'hui tout est grillé, tout est jaune, bien qu'on soit juste au début de l'été. J'ai eu l'occasion, en travaillant à l'étranger, de voir que le vivant était très attaché à la couleur verte. Et dès qu'on s'éloignait du vert, qu'on allait vers le jaune, le brun, on avait de plus en plus de difficultés à voir du vivant ou à voir du vivant. C'est-à-dire entre l'eau, la lumière et le vert, la chlorophylle. Moi, je m'arrête au vert parce que s'il n'y a pas de vert, il y a de moins en moins de vivant. Et actuellement, c'est une catastrophe puisque le manque d'eau fait que tout ce qui était vert est en train de disparaître. Et s'il n'y a plus de vert, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Les odeurs. On a une période là où on est en train de faire les foins. Et il y a une odeur particulière, c'est l'odeur de l'herbe sèche, du foin. Bon, c'est lié maintenant, je le sais, à une molécule chimique qu'on appelle la couramine, mais cette odeur est tellement persistante que ça reste à vie. Alors l'odeur du foin, c'est l'enfance, c'est le début de l'été, c'est les bêtes qu'on va nourrir pendant l'hiver, c'est préparer les jours difficiles qui vont venir après. Actuellement, j'ai un petit troupeau, mais je suis obligé de faire du foin puisque d'octobre à avril, je suis obligé de nourrir mes bêtes à la bergerie. Le son, ma passion actuellement, depuis l'âge de 20 ans, 25 ans, c'est l'ornithologie, c'est la passion des oiseaux je dirais les chants d'oiseaux, puisque même chose, j'ai été baigné par ces chants d'oiseaux, parce que quand on est au champ avec les bêtes, on est passif, mais on a une attention qui est permanente. Les insectes, bien sûr, le bourdonnement des insectes, mais aussi le chant d'oiseaux, puisqu'on est sur le bord des haies. Alors peut-être que ma passion ensuite pour la restauration est venue de là, mais le chant des oiseaux, pour moi, est quelque chose qui a construit mon enfance et qui m'a construit ensuite, puisque je suis allé vers l'ornithologie assez tôt. Alors la texture, je vais prendre de la douceur, parce que dans un monde de brut actuellement, on a besoin de beaucoup de douceur. Et quand on va au champ, je reviens encore à cette histoire, on emmène les chevreaux au début du printemps. C'est-à-dire les chevreaux sont nés entre janvier et février. Chevreaux ou agneaux sont nés entre janvier et février, on les amène au champ. Mais ils ne peuvent pas suivre parce que dans la boucle, quand on va au champ, c'est très long. Donc on est obligé de porter les agneaux. Et la douceur de la laine, c'est à la fois la douceur, l'odeur, la chaleur, etc., le contact, bien m'est resté. Et quand je vais voir mes moutons sont très proches de moi, et bien je caresse mes moutons tout le temps, parce que ce contact de laine, et, actuellement ils ont été tendus là, au mois d'avril-mai, ils sont encore plus doux. La laine d'hiver est un peu rêche, il y a un peu de suif dedans, mais la laine de printemps et la laine de début d'été est très douce, et c'est vraiment cette douceur que je voudrais conserver.
Thank you.
Et comment intègres-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Alors, dans mes projets passés, comme je faisais de la science de la vie et de la terre, j'incluais ce vivant. Dans ma retraite, j'ai inclus ce vivant dans mon projet au sein de la collectivité, puisque en parlant de biodiversité et d'environnement, j'incluais ce vivant au quotidien. Actuellement, j'inclus ce vivant sur d'autres projets. Je m'appuie sur tous les travaux qui ont été faits sur les solutions fondées sur la nature, les SFN, où, bien que nous ayons beaucoup d'impacts négatifs sur la nature, il y a des éléments positifs, et en prenant en compte ces solutions fondées sur la nature, je pense qu'on a une orientation qui pourrait changer les pratiques agricoles, par exemple, changer notre rapport au vivant aussi. On ne pourrait pas avoir nos vergers aussi riches actuellement si on n'avait pas ces pollinisateurs. Donc c'est le vivant qui nous fait, qui nous nourrit, entre guillemets. Ce rapport au vivant, les agriculteurs l'ont oublié complètement, puisqu'ils ont remplacé la fumure traditionnelle de la polyculture céréales, élevage, prairie, par des intrants chimiques, plus des traitements chimiques, herbicides, fongicides, rotondicides, etc. Et ils ont perdu ce contact avec le vivant et avec la nature, entre autres, et donc détruisent progressivement. On parle de pollution chimique actuellement, on est à côté de l'eau, mais ici notre eau contient de l'atrazine. L'atrazine, c'est un produit qui a été interdit il y a plus de 20 ans. Et quand on pompe, quand on fait une analyse chimique, quand on cherche bien sûr, on trouve ce polluant dans l'eau que l'on boit, puisque notre captage est sur la nappe de l'eau qui est toute proche de nous ici. Et bien, avait-on besoin d'utiliser l'atrazine il y a 20 ans, on va conserver pendant des dizaines, voire des centaines d'années dans notre eau par exemple.
Dis-nous, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Actuellement, ce qui est visible, c'est l'impact négatif. On le voit au quotidien. Il y a plusieurs impacts sur le vivant, sur la biodiversité, sur l'environnement. Il y a des impacts dits naturels. Il y a des impacts liés au changement climatique et qui dépend essentiellement de l'activité humaine. Il y a aussi les pratiques humaines. Moi, je parlais des pratiques agricoles qui modifient excessivement le vivant, en particulier sur notre territoire. Mais d'un autre côté, on apporte des éléments de connaissances scientifiques. Plus on connaît le milieu, plus on peut intervenir et plus on peut aider, entre guillemets, des cycles biologiques, restauration de certains milieux pour l'accueil de certaines espèces ou le maintien de certaines espèces. Je travaille sur un petit espace avec le Conservatoire des espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, et dans le cahier des charges, c'est un DAGC, un document d'action et de gestion concertée, il y a un certain nombre d'actions, il y a un programme d'action avec une trentaine d'actions programmées, et une des actions, c'est faciliter le développement d'un petit papillon qui s'appelle l'azuré du serpolet, qui est en réalité un petit papillon qui se développe sur une plante haute et donc qu'on appelle le serpolet. Mais ce papillon ne peut se développer que si le serpolet se développe. Or, pour que le serpolet se développe, il ne faut pas qu'il soit gêné par le développement d'une graminée. Il y a une graminée envahissante sur ces pelouses sèches qui est le brachypode. Et si on n'intervient pas sur le brachypode, eh bien, on n'a pas l'origan, que j'ai appelé serpolier tout à l'heure. L'origan ne va pas se développer. Et donc, l'action de l'homme, là, c'est venir amener un troupeau de moutons avec un dispositif qu'on appelle éco-pâturage pour diminuer l'envahissement par les graminées. C'est-à-dire mettre une pression sur les végétaux de manière à ce que certaines légumineuses et l'origan puissent se développer et que le cycle de notre petit papillon azuré se développe. Donc voilà une action.
On va passer à la question d'actualité. Le 5 juin dernier, une étude a été publiée par la Ligue pour la protectrice des oiseaux. Celle-ci porte sur l'évolution des populations d'oiseaux ces 5 dernières décennies. Elle est issue d'une compilation de données recueillies combinant expertise scientifique et science participative. Le résultat de cette étude indique une fracture entre les espèces les plus dépendantes des milieux agricoles et semi-naturels, généralement de plus petite taille, qui s'effondrent, les galliformes, limicoles, passereaux, et celles de grande taille, échassiers et rapaces, qui répondent plus favorablement à des mesures de protection et de restauration. En effet, les populations de 120 espèces communes de France ont baissé de 18% entre 2001 et 2025. Il faut dire que les passereaux, qui représentent la moitié des 314 espèces nicheuses en France, mais 90% de la population totale d'oiseaux, poursuivent leur chute. À titre d'exemple, le martinet noir a perdu 65% de ses effectifs depuis 25 ans. Bien que les passereaux, ces petites espèces telles que la mésange, le rouge-gorge, présentent généralement un métabolisme élevé, une courte espérance de vie, un fort potentiel reproducteur permettant un renouvellement générationnel accéléré qui pourrait laisser croire à une certaine résilience face aux perturbations, il n'en est finalement rien puisque les pressions auxquelles elles sont soumises ne sont pas ponctuelles mais chroniques et structurelles. Les causes les plus probables de ce déclin sont bien connues, usage massif de pesticides décimant les invertébrés, base alimentaire des espèces insectivores qui mangent des insectes tels que la fauvette, l'alouette, et également la banalisation des milieux agricoles et semi-naturels qui éliminent progressivement les espèces spécialistes de ces milieux au profit de quelques espèces généralistes comme le pigeon ramier, la corneille noire. L'étude conclut que ces processus de dégradation ne peuvent être enrayés par des mesures de protection ponctuelles, mais seulement par des changements systémiques. Ce qui n'est pas le cas pour certaines espèces de grande taille, parmi les échassiers et les rapaces, qui répondent favorablement à des mesures ciblées. Les grandes espèces ont des caractéristiques inverses, longue durée de vie, maturité sexuelle tardive, faible productivité annuelle. Dans leur cas, c'est la survie des adultes qui assure la dynamique de l'espèce. Elles sont très vulnérables aux sources de mortalité non naturelles, les tirs, les empoisonnements, l'électrocution. Les pressions qui pèsent sur ces espèces sont plus localisées et plus sensibles à des mesures de restauration ciblées. Protection d'un site, interdiction d'une pratique de chasse. À cela s'ajoute une mobilisation plus facile du public et donc des parties prenantes en faveur d'espèces emblématiques comme l'aigle ou le faucon cresserelle. Parmi les grands gagnants figurent aussi la cigogne blanche, qui compte 6000 couples en 2023, contre seulement 11 en 1974, ou le vautour moine, avec 55 couples en 2023, contre un seul en 1996. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Alors, pour moi, l'ornithologie est une passion donc, que j'ai depuis l'âge de 20-25 ans. Et j'ai pu constater, en revenant dans mon village 35 ans après, cet effondrement. Actuellement, je fais partie d'un groupe de prospection d'une espèce particulière qui s'appelle l'aigle du Poitou, qui s'appelle le circaète, Jean Leblanc. Ce circaète, jusqu'à maintenant, était relativement rare dans la zone du Poitou-Charentes. Il s'est développé, comme dans l'article cité, les rapaces ont plutôt une tendance d'expansion. lié au règlement dès 1976 les rapaces, sur la protection des rapaces. Et puis, en même temps, ce sont des espèces qui choisissent des espaces qui leur permettent de se reproduire sans impact humain. En ce qui concerne les petits oiseaux, lorsqu'on fait, par exemple, une plantation de haies, dans une plantation de haies, au bout de 4 ans à 5 ans, on a normalement les premières nidifications en pied de haie, souvent l'accenteur mouché, le rouge-gorge, cité par exemple. Nous avons planté depuis 2015 entre 3,5 km de haies à 4 km de haies sur la commune, en démarche participative, et on s'aperçoit que quand on inspecte les haies pendant la période hivernale, c'est-à-dire quand le feuillage est disparu, eh bien le nombre de nids est très très limité. Ces petits passereaux, qui sont essentiellement insectivores, je pense à la fauvette à tête noire, je pense à la fauvette grisette, à l'hippolaïs polyglotte par exemple, ou à l'accenteur mouché. Au moment de la reproduction, ils nourrissent les petits essentiellement des chenilles par exemple ou d'autres insectes. Et tout le monde connaît l'effondrement des insectes, tout le monde connaît la parabole du pare-brise propre. Cette disparition des insectes a engendré bien sûr l'effondrement de ces populations de petits oiseaux. Et en même temps, dans la cohorte d'oiseaux que l'on retrouve sur les haies, disparaissent en même temps les consommateurs de ces petits oiseaux.
On va passer à l'agenda librairie. Quelles références ou rendez-vous souhaiterais-tu nous communiquer ?
C'est un livre de philosophie, Baptiste Morisot, et illustré par Sulanowski, « Rendre l'eau à la terre ». C'est un livre qui m'a marqué depuis quelques mois, puisque la lecture entraînait un changement de paradigme, dans le sens où son concept, c'est allier les puissances de la nature, du non-humain, à l'humain. Si on s'y met tous, je pense que les jours meilleurs viendront.
Tu y as pêché où, baobab d'acajou?
Voici que cet épisode aux côtés d'un amoureux du bocage prend fin. La semaine prochaine, la série Clé des champs reprend du service pour notre plus grand plaisir.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent être noyés.